Les titres du journal.
Moving Mountain revient au Diableret le 3 septembre prochain. La formule mêlera connexion à distance et présence physique et aura pour thème le financement de la transition durable. Refonte à terme des jardins potagers municipaux des Rives, mise à disposition d'une parcelle communale de 600 m² pour la création d'un jardin communautaire. La municipalité de Saint-Maurice consent des efforts en faveur des personnes qui ont envie de jardiner. L'annonce était attendue depuis près de 20 ans. Un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer vient d'être approuvé aux États-Unis. Il est analysé en ce moment par Swissmedic et pourrait faire son apparition ces prochains mois sur le marché helvétique. En football, l'équipe de Suisse a l'occasion aujourd'hui d'écrire une page supplémentaire de son histoire en quart de finale de l'Euro. Et sur la Riviera, la course Montreux-les-Rochennais fera son retour ce week-end.
Soleil, la météo complète en fin de journal. Journal présenté à midi par Léa Journaux. Bonjour Léa.
Bonjour. Le forum de développement des villages de montagne Moving Mountain vivra sa 10e édition au Diableret le 3 septembre prochain. Au menu des tables rondes, des conférences et des ateliers autour du thème choisi, le financement de la transition durable en montagne. Pour cette 10e édition, le forum mise sur une formule mixte qui mêlera la présence physique et la connexion à distance. Thierry Meyer, président de l'organisation du Moving Mountains Forum.
On est assez optimiste, on pense qu'on pourra, donc c'est le 3 septembre, on pourra dérouler ce forum en présentiel. On a prévu aussi de pouvoir avoir un accès en ligne, donc c'est un peu une formule hybride. Les gens qui peuvent pas venir aussi pour des raisons de disponibilité, ils pourront se brancher. Voilà, ce sera la première fois qu'on fera vraiment comme ça de façon hybride, mais on espère surtout qu'il y ait du monde qui vienne, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus productif quand les gens sont dans la même salle.
Alors, un thème choisi cette année, le financement, le nerf de la guerre, hein, clairement. Comment financer des transitions durables en montagne? Pourquoi cette interrogation?
Parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a des obstacles qui sont pas toujours techniques, hein, ou logistiques. Les obstacles, ils sont souvent financiers. On a des communautés de montagne qui ont des besoins en infrastructures et en transformation aussi de leur modèle économique, qui sont importants, et puis en face des moyens qui sont souvent limités, qui sont en disproportion avec les besoins. Et puis on a un alignement qui est pas toujours idéal entre les formules de financement ou les gens qui sont engagés dans ce qu'on appelle la finance durable et les projets. Ça colle pas toujours. Alors l'idée, c'est toujours la même chose pour le Moving Mountains Forum, c'est d'être une plateforme qui réunit des projets et des solutions. Et on va regarder très concrètement là comment ça marche, s'il y a déjà des exemples qui fonctionnent. Donc ce sera passionnant. On va mettre en réseau des gens qui font des choses, d'autres qui sont là pour les permettre de les réaliser. Ça va être sympa.
Comme dans tous les projets de large échelle, hein, qui impliquent des financements importants, on a une sorte de duo magique, hein, qui est le public et le privé. Sans dévoiler les conclusions du forum, évidemment, mais c'est vers ce partenariat public-privé qu'il faut se diriger.
Oui, alors il n'a pas besoin d'ailleurs d'être institutionnalisé. Hein. La diversité fait le succès. C'est-à-dire que pour un certain nombre de communautés de montagne, il y a déjà des financements très structurés, très, très codifiés, qui sont ceux, par exemple, des NPR, hein, de la nouvelle politique régionale. Donc on aura d'ailleurs un représentant du SECO qui est responsable de tous ces programmes. Alors ça, c'est une façon de financer. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a aussi des initiatives privées. Il y a aussi le financement participatif ou collectif qui prend des formes nouvelles grâce aux technologies aussi. On abordera aussi cette question-là. Et puis, on sera confronté à des visions et à des réalités. Puis vous avez des échelles différentes. Alors, on doit regarder évidemment si ces exemples sont reproductibles ailleurs. Est-ce qu'on peut les produire à une certaine échelle? Mais vous avez des projets qui sont relativement modestes, et puis d'autres qui exigent alors une infrastructure financière aussi très importante, parce que ils impliquent des investissements de plusieurs dizaines de millions.
Thierry Meyer répondait à Florian Barbet. Les inscriptions au forum sont ouvertes. Plus d'infos sur www.movingmountainforum.com. On parle de vin. Le mondial de Bruxelles 2021 a livré ses résultats. La compétition vinicole internationale récompense les meilleurs vins dans différentes catégories. Dans la région, les celliers du Chablais à Aigle ainsi que le domaine Gérald Besse à Martigny ont obtenu des médailles d'or.
Si les Agonois ont envie de jardiner,
eh ben, ils peuvent continuer à le faire malgré la disparition fin décembre 2020 de plusieurs dizaines de jardins potagers situés au-dessus de la gare. Une disparition décidée par les propriétaires des lieux, les chemins de fer fédéraux. C'est un dossier d'Yves Terrani.
Les CFF ne voulaient plus de ces jardins qui existaient depuis près de 60 ans. Selon nos informations, leur gestion administrative posait des problèmes. La grande entreprise de transport public les a ainsi transformés en champs, dénonçant les baux en vigueur pour la fin de l'année dernière. Au grand dam, bien sûr, des personnes exploitant les superficies, lesquelles ont sollicité avec succès les autorités communales. Pour celles-ci, il était important de réagir. Première décision prise, la modification de la directive des jardins potagers municipaux des rives, située au-dessus de la galerie de l'autoroute. Les précisions de Xavier Lavanchy, président de Saint-Maurice.
Ces jardins-là, ils étaient au nombre de 18. L'idée, c'est de les diviser à terme en deux, pour permettre justement à 36 personnes, ou à 36 ménages plutôt, de louer ces jardins pour en faire des jardins potagers.
Est-ce que ça va susciter au moment des renouvellements de baux des discussions, parce que les gens vont voir quand même leur parcelle diminuer?
L'idée vraiment c'est d'y aller petit à petit et de ne pas entrer en conflit, ce qu'on ne voulait pas avec les locataires actuels. Hein. L'idée c'est que celui qui cultive son jardin puis qui cultive dans le respect du règlement, c'est-à-dire 3/4 de la surface louée, puisse conserver son jardin même sur un long terme. Lorsqu'il y a des changements de locataires, de mettre le principe qu'on allait louer désormais que des jardins divisés par deux.
Autre décision des autorités municipales, la mise à disposition de la toute nouvelle association du potager agonois d'un terrain derrière la vigerie, afin d'y créer un jardin communautaire. Sandrine Rappa est membre du comité de cette nouvelle association. Elle nous précise comment les choses se sont passées.
Directement en février, on a demandé à la municipalité et au nouveau président Xavier Lavanchy si on pouvait en fait faire quelque chose ensemble. Ils nous ont gracieusement proposé un terrain complètement équipé et on s'est lancé assez vite. Début mai, on avait déjà le terrain à disposition.
Depuis, les légumes commencent gentiment à pousser. Ce qui est intéressant, c'est que le membre de l'association qui plante des poireaux n'en héritera pas forcément. Peut-être recevra-t-il à la place des courgettes. C'est un peu ça, l'idée de ces jardins communautaires. Jardins qui se veulent aussi un espace d'initiation, de rencontre, de partage. On retrouve Xavier Lavanchy.
C'est dans les buts de l'association. Hein. Évidemment, on y a été sensible. Lorsqu'on a donné suite à leurs demandes, c'était pas uniquement de créer un endroit pour cultiver, mais aussi pour se rencontrer, pour discuter. Mais je crois que c'est l'idée en général qu'il y a derrière ces jardins communautaires. Et effectivement, c'est intéressant aussi de peut-être pas partager une parcelle en dix petites parcelles où chacun a une clôture et est délimité, mais avoir 600 mètres à disposition de tous les volontaires et qui seraient intéressés à travailler avec l'association.
Reste cette question. Quel type de jardinier amateur l'association du potager agonois souhaite-t-elle attirer? Plutôt des jeunes? On écoute la réponse de Sandrine Rappa.
La mixité de génération est très importante. Pourquoi? Parce que qu'on soit plus âgé ou on a peut-être eu l'habitude d'avoir un jardin quand même assez cloisonné où on sait qu'on a nos carottes, etc. Là, de viser quelque chose de plus large sans avoir de pression sur les récoltes, c'est aussi intéressant. Et aussi pour les jeunes, les adolescents ou les vingtenaires, c'est aussi assez important parce que je pense qu'il y a quand même une grande volonté d'apprendre à jardiner. D'autant plus, je pense, chez les jeunes et une importance aussi.
Deux possibilités donc. Donc désormais de jouer les cultivateurs à Saint-Maurice, au jardin potager municipaux des Rives ou alors au jardin communautaire de l'association du potager agonois derrière la vigerie.
Les gens qui souhaitent contacter ladite association peuvent le faire en appelant le 076 239 10 73. Le service urbanisme et bâtiment de la commune lui répond aux questions s'agissant des jardins potagers municipaux des Rives. On peut l'atteindre en appelant le 024 486 60 78.
Bastian Becker est la tête d'affiche de la tournée 2021 du Cirque CNI.
L'occasion aussi pour le chanteur de fêter ses 10 ans de scène. La tournée démarrera le 29 juillet avant de dresser le chapiteau d'abord à Genève, puis à Lausanne du 22 septembre au 10 octobre. Mais si le CNI est le cirque suisse par excellence, cela fait-il de Bastian Becker le chanteur des Suisses? Écoutez la réponse du Vaudois.
Je ne sais pas si on peut le mettre comme ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu une cour de ma carrière où je me suis presque senti investi d'une mission. C'est pas rare que des gens m'apportent dans la rue pour me dire merci pour ce que vous faites pour la Suisse, merci de me présenter à l'étranger. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont je me sens investi sans prétention aucune, mais c'est vrai que bah voilà, je suis quand même cultivé cette image parce que j'aime aussi profondément la Suisse, et donc oui, cirque suisse, chanteur des Suisses, pourquoi pas, je prends ce titre avec plaisir.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac. Notez qu'il est déjà possible de se procurer les billets pour le cirque CNI. L'accès au spectacle sera ouvert aux visiteurs disposant d'un certificat Covid. 14 activistes du groupe Extinction Rebellion vont faire recours après leur condamnation en juin dernier par le tribunal de police de Neuchâtel. Rappel des faits, ils avaient bloqué pendant plus d'une heure une des artères de la ville le 5 mars 2020. Les plaignants estiment que leur droit de manifester n'a pas été pris en considération. Le juge qui avait condamné les activistes a refusé d'admettre l'état de nécessité en reconnaissant toutefois l'urgence climatique.
Simonetta Sommaruga a réagi aujourd'hui au rapport réalisé sur les cas d'atteinte à la personnalité au sein de la RTS.
La conseillère fédérale a insisté sur la nécessité d'un changement de culture au sein de la chaîne. Elle s'informera de la mise en œuvre de mesures souhaitées par la direction afin que les cas recensés dans ce rapport ne se reproduisent plus. La Suisse officielle du grand argentier Uli Maurer s'aligne sur le nouveau standard de fiscalité des multinationales, mais à reculons. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a fixé un plancher à 15% pour le taux fiscal des entreprises internationales. 130 pays sont d'accord, dont ceux qui s'apparentent à des paradis fiscaux. États-Unis et Chine sont derrière. En Europe, seule l'Irlande et la Hongrie rechignent. Contrainte, la Suisse adhère malgré de grandes réticences, affirme le département fédéral des finances. Explication avec l'économiste Samuel Bendahan, conseiller national socialiste et membre de la commission de l'économie et des redevances.
Les avantages fiscaux concurrentiels de la Suisse vont absolument pas disparaître, puisque la Suisse pourra toujours se situer dans les minimums qui existent. Et surtout, les vrais avantages de la Suisse ne sont pas dans la fiscalité pour les entreprises, mais dans les conditions cadres qu'on offre, la qualité de la formation, la qualité de vie, la stabilité sociale. Et puis le fait de payer leurs impôts normalement permettra que le pays puisse développer et investir encore dans ces conditions cadres-là. Donc ce sera plutôt un avantage pour la Suisse. La raison pour laquelle la Suisse a des réticences est absolument incompréhensible. On ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un comme Uli Maurer est réticent par rapport à cet immense progrès social que cela représente. Ça permettra d'alléger le fardeau pour toutes les autres personnes dans le pays. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu, quand on parlait de taxation des GAFA, donc des grandes entreprises du net qui font des milliards et des milliards de profits qui ne payent pas d'impôts, la Suisse, qui avait vraiment tout à gagner de ça, était déjà réticente. Je pense que c'est vraiment purement idéologique, tout comme l'est la suppression du droit de timbre, par exemple.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire à Berne, Serge Jubin.
Les espoirs sont à la hauteur des ravages causés par la maladie.
Les États-Unis ont approuvé il y a quelques jours un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer. Swissmedic est actuellement en train de l'analyser. S'il passe toutes les étapes, ce traitement pourrait faire son apparition ces prochains mois sur le marché helvétique. Cela fait près de 20 ans que Jean-Marie Anoni attendait cela. Il est médecin-chef du service de neurologie à l'hôpital de Fribourg.
On est dans l'optimisme et une certaine joie prudente. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui sont touchées par ces maladies ou pour l'entourage, il peut y avoir tout à coup une euphorie, l'impression que ça va être quelque chose qui va tout changer. Ça va pas changer. Ça va changer la manière d'aborder la médication et d'aborder la maladie dans le sens qu'on va essayer de l'aborder un peu plus tôt. Ça va être une arme de plus des 5 autres armes qu'on a, médicamenteuses et non médicamenteuses, qu'on va pouvoir utiliser de temps en temps.
En ce moment, la marge de manœuvre des médecins dans les cas d'Alzheimer est relativement faible. Il existe en fait 4 molécules seulement qui s'attaquent uniquement aux symptômes de la maladie. Avec ce nouveau médicament qui serait administré par le sang, on change de paradigme et on s'en prend directement à la source même de la pathologie. Jean-Marie Anoni est spécialiste en neuropsychologie. Il nous explique comment va marcher ce traitement.
C'est un médicament qui fonctionne de manière plutôt immunologique, c'est-à-dire en attaquant certaines ou en induisant des attaques dans certaines parties des protéines de dégradation de la maladie. Autrement dit, la maladie d'Alzheimer peut être un peu considérée comme la ville de Naples quand il y avait eu la grève des éboueurs, et les poubelles sont en fait les détritus induits par la maladie d'Alzheimer, la ville asphyxie, le cerveau asphyxie. Et ces médicaments permettraient de dégrader ces poubelles qui sont dans les rues et donc de diminuer cette asphyxie cérébrale. Donc ça toucherait plutôt le processus de la maladie que les symptômes.
Ce tout nouveau médicament laisse perplexe de nombreux médecins et scientifiques, principalement car il n'a pas rempli l'intégralité du processus clinique en phase de test. En plus, ce médicament pourrait créer de faux espoirs car il ne pourra certainement pas être donné à tous les patients. De 1, parce qu'il est très cher, environ 56 000 dollars par année. Et de 2, car tous les patients ne seront pas éligibles, comme l'explique Jean-Marie Anoni.
Ce que je crois avoir compris, c'est que c'est les personnes qui n'ont pas d'autres maladies associées ou d'autres causes de problèmes cognitifs, de problèmes de mémoire, que l'Alzheimer. Et puis des formes plutôt précoces, des formes légères, celles qui ont commencé peut-être il y a 6 mois ou 1 an. Donc ça veut dire qu'avant peut-être on était un peu plus attentiste, on disait on a fait cet examen, on regarde dans 1 an pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Là on va peut-être dire on va quand même faire des examens plus détaillés pour avoir le tableau plus complet dès le départ. Avec... Le risque quand même, c'est qu'après on doit dire aux gens, vous avez quelque chose, mais on ne peut pas vous donner ce médicament.
Même si ce nouveau médicament n'affiche pas, ou pas encore en tout cas, toutes les garanties cliniques nécessaires, son introduction pourrait permettre de stimuler et relancer d'autres recherches qui stagnent depuis près de 20 ans maintenant et qui vont d'échec en échec. On retrouve Jean-Marie Anoni.
Tous les médecins, tous les scientifiques qui s'occupent de ces maladies se sont bien rendus compte qu'actuellement, 3 ou 4 grandes entreprises, pharmaceutiques entre autres, ou de recherche en médicaments, qui travaillaient sur cette maladie, qui ont arrêté. Donc celui-ci était un des derniers qui était encore en essai avant un certain désert. Donc je pense que les gens vont se dire, c'est quand même possible.
De quoi espérer un jour peut-être trouver le remède miracle pour cette maladie qui touche près de 140 000 personnes en Suisse et quelques 4 000 personnes dans le canton de Fribourg.
Je pense qu'on peut bloquer la pathologie, on ne peut pas bloquer le vieillissement. Je ne vois pas ça comme ça, en tout cas, moi je n'ai pas l'impression. Par contre, on peut effectivement diminuer les pathologies liées au vieillissement. Il faut aussi voir qu'on a à peu près, actuellement on connaît plus de 100 gènes qui font des modifications dans la dégradation des protéines cérébrales, et ces différents gènes influencent chaque fois un processus très légèrement différent. Donc pour couvrir tous les processus, ça risque d'être compliqué.
C'était un sujet de nos confrères de Radio Fribourg. 9 cabinets médicaux sur 10 ont dû réduire leur activité l'an dernier, voire fermer temporairement dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Un tiers a eu recours au chômage partiel et presque un cinquième a demandé une aide sous forme de liquidité. Entre mi-mars et fin avril 2020, les cabinets médicaux ont eu l'interdiction de réaliser des interventions et des traitements non urgents, a rappelé aujourd'hui l'Office fédéral de la statistique. Au cours de cette période d'un mois et demi, 73% d'entre eux ont vu leur activité se réduire, tandis que 9% ont fermé temporairement.
À l'étranger, la plus grande base militaire d'Afghanistan a été restituée par les États-Unis.
Le porte-parole du ministère afghan de la Défense l'a annoncé aujourd'hui. Les forces américaines et de la coalition se sont complètement retirées des lieux. Cette base permettra aux forces armées afghanes de combattre le terrorisme dans le pays. Football, un nouveau défi de taille attend l'équipe de Suisse aujourd'hui à l'Euro. Tombeur de la France lundi en 8e de finale au terme d'un match complètement fou, les Helvètes s'apprêtent à en découdre avec l'Espagne au tour suivant. Une qualification relèvera donc à nouveau de l'exploit. Surtout que la Nati, dans toute son histoire, n'a battu les joueurs ibériques qu'à une seule reprise. C'était en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mais après sa qualification historique décrochée en début de semaine, la troupe de Vladimir Petkovic a fait le plein de confiance, comme l'explique le milieu de terrain Christian Fasnacht.
Chaque joueur a emmagasiné beaucoup de confiance. Nous avons montré que nous étions aussi capables de rivaliser avec les plus grandes équipes dans un tournoi majeur. Il faut faire en sorte que ça nous serve pour créer un nouvel exploit contre l'Espagne. Maintenant, à nous de garder les pieds sur terre. Nous avons gagné un match, c'est très bien, mais il faut rester concentré, ne pas être trop orgueilleux et penser que nous sommes déjà en finale. L'Espagne reste une équipe de tout premier plan, mais c'est sûr que le match contre la France a renforcé nos liens.
Pour le premier quart de finale de leur histoire dans un euro, les joueurs de l'équipe de Suisse vont donc devoir garder les pieds sur terre. Ils défieront sur les coups de 18h une sélection espagnole qui est en pleine bourre depuis 2 matchs avec 10 buts marqués. Les précisions du milieu de terrain lucernois de la Nati, Remo Freuler.
L'Espagne est une très bonne équipe qui compte 2 titres à l'Euro dans son histoire. Ils ont connu quelques difficultés sur le plan offensif au début du tournoi, mais tout va beaucoup mieux pour eux depuis 2 matchs. C'est une équipe qui aime avoir la possession du ballon, donc nous devons être prêts à beaucoup courir, à beaucoup nous battre pour pouvoir gagner. Pour moi, nous avons notre chance à 100% dans ce duel. Nous n'aurons rien à perdre. Il faudra jouer avec du cœur, de la passion, et tout est possible. Nous espérons vraiment pouvoir atteindre cette demi-finale.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Christophe Cerf. Le coup d'envoi de ce quart de finale de l'Euro que vous allez suivre, bien évidemment, Guillaume, entre la Suisse et l'Espagne sera donc donné à 18h à Saint-Pétersbourg.
En course à pied, ils seront près de 500 à s'attaquer dimanche à la montée entre Montreux et les Rochers de Nez.
La célèbre épreuve de montagne fera son retour dans le calendrier dimanche, annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire. La 39e édition a pu être maintenue cette année, mais pour les organisateurs, il a fallu prendre plusieurs mesures. Une limite maximale de 500 participants a notamment été instaurée. Reste que cette décision a notamment des répercussions sur le plan financier. Entre le nombre restreint de concurrents et l'annulation des lotos et des repas de soutien durant les 18 derniers mois, les sources de revenus sont moindres. Mais qu'en est-il des sponsors? La réponse de Jean-Luc Terretta, président du comité directeur de la course Montreux les Rochers de Nez.
Alors lorsqu'on a sorti le programme dans lequel il y a passablement d'annonces, on a été agréablement surpris de voir toutes ces sociétés qui continuent à nous faire confiance et qui mettaient de la publicité. Le sponsor principal, on a la chance de pouvoir compter sur Elite Fondation depuis cette année sur 3 exercices. Trouver au jour d'aujourd'hui un sponsor principal, c'est extrêmement compliqué. Donc on est très heureux d'être libre dans la tête pour 3 éditions. Et alors je dois quand même mentionner, c'est pas un sponsor, mais c'est clairement un partenaire, la commune de Montreux, qui, elle, a mis en place un fonds spécial pour couvrir les éventuelles découvertes des manifestations comme la nôtre. Donc ce déficit envisagé de 15 000 francs sera, le cas échéant, couvert par la commune de Montreux.
À noter que le parcours de cette 39e course Montreux les Rochers de Nez sera légèrement différent dimanche. Alors que le départ sera donné depuis la vieille ville et non plus de la gare, le tracé n'empruntera pas les gorges du Chaudron qui sont toujours fermées au public. Un sujet signé Julien Traxel. Et puis on termine avec les Jeux Olympiques de Tokyo et certaines épreuves qui pourraient se tenir à huis clos. Un journal nippon l'a révélé aujourd'hui. La mesure serait une réaction à la recrudescence des cas de Covid-19 dans la capitale japonaise. Pour mémoire, les organisateurs des Jeux avaient décidé le mois dernier d'autoriser le public résident au Japon à assister aux épreuves, mais à 50% des capacités d'accueil des sites olympiques. Exception pourrait être faite pour certaines compétitions se déroulant en soirée ou sur des sites de grande taille.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec RTB, entreprise de construction Aviona.
Il fait grand beau en ce moment sur notre région. Il va continuer à faire grand beau cet après-midi, nous dit Météo Suisse, avec tout de même l'arrivée de Timid Cumulus sur les crêtes, mais aucune menace de type pluie ou grêle est à prévoir, nous dit l'Office fédéral de la météorologie. Cet après-midi, température maximale 26 degrés en pleine, 21 à 1000 mètres, 14 à 2000 mètres. Le week-end s'annonce assez mitigé, avec parfois samedi des précipitations qui devraient arriver l'après-midi et dimanche des averses qui seront parfois même orageuses et qui se développeront elles aussi en cours de matinée. Il va faire au maximum ce week-end 23 en pleine, 21 à 1000 mètres, 16 à 2000 mètres. La météo justement de ce week-end et du début de semaine prochaine sur notre site radiochablais.ch.